France Musique. France Musique. Grand large, Go West. Laurent Vallière.
Aujourd'hui, 14e épisode, Big Sur, là-haut sur la falaise. De Las Vegas, il faut contourner la vallée de la mort aux températures effarantes et monter au nord, traverser l'immensément vert parc Yosemite et poursuivre tout droit jusqu'à la côte. 14 heures de route. Lorsque vous voyez du brouillard s'élever sur une presqu'île, vous y êtes, à San Francisco.
Your golden sun will shine.
Joel Brown, I Left My Heart in San Francisco, accompagné par Louis Armstrong et son groupe. C'était à Paris, au Palais des Sports, enregistré en 1965. En 1848, San Francisco faisait encore partie du Mexique. Mais l'or découvert dans les contreforts de la Sierra Nevada en fait une possession américaine. Et en 1850, la Californie devient le 31e État nord-américain. Après la Seconde Guerre mondiale, San Francisco devient terrain d'expérimentation pour les droits civiques et la liberté d'expression. Le lieu du mouvement psychédélique des années 60 avec le Summer of Love, synonyme de nourriture gratuite et de musique dans le quartier de Haight Ashbury, tout près du Golden Gate Park qui s'étend jusqu'à la mer. La ville attire ensuite les geeks jusqu'à en faire aujourd'hui la ville reine de la nouvelle technologie où Google et autres GAFAM règnent en maître et rendent aujourd'hui inabordables les loyers des petites maisons bleues que vantait Maxime Le Forestier. Une chanson reflète l'état d'esprit empreint de liberté de l'âge d'or de San Francisco. Si vous allez à San Francisco, soyez sûr de mettre quelques fleurs sur vos cheveux. If you're going to San Francisco, to wear some flowers in your hair. If you're going to San Francisco, you're gonna meet some gentle people there. Chanson de Scott McKenzie, San Francisco. San Francisco, son million d'habitants, sa diversité culturelle, son Golden Gate Bridge, rouge, orangé, qui enjambe l'océan Pacifique et ouvre la voie vers le nord, vers Seattle. Ses 43 collines qui offrent des vues époustouflantes, son centre-ville avec des cable cars anciens, ses vieux tramways, un centre-ville vallonné sur lequel les voitures rebondissent. Le générique des rues de San Francisco, la série avec des voitures qui font des bonds sur les collines de la vieille ville, une musique signée Henri Mancini.
France Musique, Grand Large, Go West, Laurent Vallière.
San Francisco n'est pas que City of Love, ville de l'amour, c'est aussi une mosaïque de minorités dont aucune n'a pris le dessus sur les autres, avec des immigrés hispano-mexicains dans leur quartier de prédilection, Mission, des immigrés français, italiens, allemands, irlandais, écossais, et à sa création beaucoup plus d'hommes que de femmes. En 1850, elle représente moins d'un habitant sur 10, des femmes souvent de mauvaise réputation. Même si San Francisco est au bout du voyage de la conquête de l'Ouest, posée au bord de l'océan Pacifique, aucune ville ne s'est autant entichée d'opéra. L'opéra avait ses amateurs à New York, à Chicago, l'opéra français avait été d'abord présenté à la Nouvelle-Orléans, mais à San Francisco, l'art plaît aussi. Alors peut-être les drames, les efforts héroïques, les promesses, les trahisons, les fortunes changeantes présentées sur scène parlaient aux nouveaux habitants. Avec la ruée vers l'or et l'espérance de faire fortune rapidement, la population de San Francisco avait explosé très vite. On était passé en 3 ans d'un village de 500 habitants en 1848 à 30 000. Une forme d'art coûteuse comme l'opéra pouvait fleurir. Le premier théâtre de San Francisco est créé en 1850. Et 6 ans plus tard, la première grande maison d'opéra, le Maguire Opera House, 3 étages, sur 618 Washington Street, dans la vieille ville construite par Thomas Maguire, un impresario né à New York, qui va particulièrement lancer l'opéra en ville. Alors sa salle accueillait aussi bien des opéras que des divertissements légers. Il reçoit des troupes italiennes d'opéra, présente des opéras en langue anglaise. Et par exemple, dès 1858, les habitants de San Francisco peuvent découvrir le Trouvère de Verdi.
Oh!
Luciano Pavarotti aux côtés de John Sutherland dans l'air de Manrico dans le Trouvère de Verdi, Di Quella Pira, le National Philharmonic Orchestra dirigé par Richard Bonning. San Francisco, c'est aussi une communauté gay rassemblée autour du quartier de Castro. Le sida y fit des ravages. Les habitants, auparavant, y avaient élu le premier homme politique ouvertement gay et militant pour les droits des homosexuels américains. Il s'appelait Harvey Milk. Il fut assassiné à San Francisco en 1978, en même temps que le maire de la ville. Le dramaturge Michael Corey et le compositeur texan Wallace Stewart lui ont consacré un opéra commandé par l'Opéra de San Francisco avec l'Opéra d'Houston et le Metropolitan Opera de New York. Trois actes dans Harvey Milk l'opéra, sa jeunesse, dans ce qu'on appelle le placard, jusqu'à l'émeute de Stonewall à New York, la vie à San Francisco dans le quartier de Castro, la campagne électorale, et puis l'hôtel de ville, son travail, une fois élu conseiller municipal. Voici le moment de la victoire dans cet opéra, célébré par le maire et Harvey Milk. Le chœur et l'opéra de San Francisco sont dirigés par Donald Runicles, avec le baryton Robert Horst dans le rôle de Harvey Milk, et le basse Gideon Sachs dans celui du maire de San Francisco.
San Francisco has made me proud of my city. Thank you, San Francisco. Thank you, San Francisco. Thank you. My years of public service. This was my dream since I was a boy in the park playing bocce. This was my dream. Thank you. This is only in America, my friends. San Francisco. Today we have broken the barriers. Today we elect our neighborhoods. Leaders who look like the real San Francisco. Ella Hill Hutch, Robert Gonzalez, Carol Ruth Silver, Harvey Milk, Gordon Love, Diane Feinstein, Daniel James White. Thank you, San Francisco. Thank you, San Francisco. Thank you. Thank you. Thank you, San Francisco.
Thank you, Mayor Moscone. And thank you, San Francisco. Thank you to the Castro, my lover Scott. 80,000 teamsters. Every single volunteer.
Thank you, San Francisco, San Francisco.
Thank You San Francisco, extrait de Harvey Milk, l'opéra. C'était l'orchestre et le chœur de San Francisco dirigé par Donald Runicles. Les habitants de San Francisco ne sont pas seulement amateurs d'opéra, mais aussi de ballet. Et la plus ancienne compagnie de ballet professionnelle d'Amérique, une des trois plus importantes aujourd'hui du pays avec l'American Ballet Theatre et le New York City Ballet. C'est une troupe fondée en 1933, au départ pour former des danseurs afin qu'ils puissent jouer dans des productions d'opéra somptueuses et complètes. À sa tête, deux frères, dont William Christensen. Il va être le premier à chorégraphier sur le territoire américain intégralement Coppelia de Léo Delibes. En 1940, ça sera la première production américaine intégrale du Lac des Cygnes. Et puis, la veille de Noël 1944, Christensen lance une tradition de fête nationale avec la première américaine de Casse-Noisette, première version intégrale du ballet jamais présentée aux États-Unis. Depuis 1942, la compagnie a pris son indépendance par rapport à l'opéra de San Francisco. William Christensen était le directeur artistique. Son frère a été nommé directeur de l'école du San Francisco Ballet, un poste qu'il a conservé pendant 33 ans. Pour le plaisir, on se remémore la mazurka de Coppelia.
Thank you.
Cavale, l'orchestre de Minneapolis dirigé par Antal Doraty. C'était la mazurka de Coppelia de Léo Delibes, présentée pour la première fois aux États-Unis à San Francisco en 1940. San Francisco est aussi une ville chère à Alfred Hitchcock, qui l'a filmé mieux que personne. Le film Les Oiseaux débute dans une animalerie sur Union Square, dans le centre-ville. Et puis dans Vertigo, sueur froide, en 1957, Hitchcock transforme les grandes tours, les escaliers en colimaçon, les ponts impressionnants en un fond inquiétant idéal. Les rues de la ville qui tournent offrent des vues merveilleuses, la ville un horizon magnifique. James Stewart, rappelez-vous, incarne un policier qui souffre de vertige après qu'un de ses collègues soit tombé d'un toit. Il quitte la police, mais accepte de reprendre du service pour aider un ami qui lui demande de suivre sa femme sans savoir que c'est un complot. Le héros qui suit cette femme nous emmène dans tous les coins de San Francisco. L'étoile de la ville, le port, jusqu'à un cimetière situé dans le quartier de Mission, historiquement le plus vieux quartier de San Francisco, où les franciscains espagnols fondaient en 1776 la mission Dolores. Et le film, sueur froide, se referme par une séquence mémorable dans l'escalier en colimaçon d'une tour d'église, James Stewart qui suit Kim Novak et éprouve du vertige. Hitchcock ne tourne pas cette séquence à San Francisco, mais au sud de la ville, à la mission San Juan Bautista. Musique Bernard Herrmann.
Thank you.
la musique du film Sueur froide d'Alfred Hitchcock, signé Bernard Herrmann.
France Musique. Grand large, go west. Laurent Vallière.
On quitte San Francisco par le sud et on descend le long de la Pacific One, une route inter-état qui longe la côte. Cette côte pacifique, rugueuse à souhait, avec des virages anguleux, des falaises impressionnantes. Première étape, Salinas, la ville où est né John Steinbeck, une ville au milieu de terres agricoles fertiles, surnommée le saladier de la nation. Sur la côte, on trouve également la ville chic de Carmel, dont Clint Eastwood fut maire. La plage est au bout de l'allée. Il y a de ravissantes collines couvertes de pins, de cyprès, d'eucalyptus, qui descendent jusqu'à l'océan. C'est aussi, Carmel, un repère de millionnaires. Et puis il y a Monterey, où John Steinbeck a installé son roman Canary Row, en français Rue de la Sardine, une tranche de vie dans cette ville portuaire, avec... beaucoup de personnages, l'épicerie de Lee Chang, l'ancien hangar de farine de poisson où se sont installés Mac et ses amis, un laboratoire biologique et une maison close. Le roman de John Steinbeck a été adapté en comédie musicale par Richard Rodgers et Oscar Hammerstein, ça s'appelait Pipe Dream, avec une chanson autour du bordel, The Happiest House on the Block, la maison la plus joyeuse du pâté de maison. Helen Schwabel incarne la patronne entourée de ses filles.
Christmas from me and the family. Remember, if ever you're blue, this little frame house on the corner will always be open to you. The happiest house on the sleeping all day, but after 11 our little blue heaven is friendly and foolish and gay. The roses that grow round our door will welcome you in when you knock. You'll meet everyone fall in the happiest house on the block. There's a friend who drops in very often. He's kind of mixed up in his life. He longs for a home and a woman. Whenever he's home with his wife,
the happiest house on the road is quietly sleeping all day. But after 11
The Happiest House on the Block, la maison la plus joyeuse du pâté de maison. C'est un bordel et c'est extrait d'une comédie musicale inspirée de l'œuvre de John Steinbeck, Pipe Dream, de Richard Rodgers, le compositeur, et Oscar Hammerstein, le librettiste. On part de Monterey et on continue à longer vers le sud, le long de la route numéro 1, Pacific Coast Highway. Voici Big Sur, la nature sauvage. D'un côté, des falaises qui semblent tomber à pic dans l'océan, souvent noyées dans le brouillard, des criques rocheuses battues par les vagues de l'océan, et de l'autre côté, des forêts de séquoias. Henry Miller écrit « Voici la Californie dont rêvaient les hommes d'autrefois. Voici le Pacifique que Balboa contempla. Voici le visage de la Terre tel que le Créateur l'a conçu. » D'autres artistes ont été subjugués par cette beauté. John Adams lui a d'ailleurs consacré une œuvre, « The Dharma à Big Sur », écrite en 2003, une ode au son et aux lumières de la Californie. C'est une commande du directeur musical du Philharmonique de Los Angeles qui doit inaugurer son nouvel opéra, le Walt Disney Concert Hall. La nouvelle de Jack Kerouac, Big Sur, lui donne des clics. John Adams explique « Le Dharma à Big Sur exprime le soi-disant choc de la reconnaissance quand on atteint le bord de la masse continentale. » Pour un nouveau venu, la première exposition produit un effet viscéral de grande complexité émotionnelle. Je voulais composer une pièce qui incarne le sentiment d'être sur la côte ouest. Littéralement debout sur un précipice, surplombant le plateau géographique, avec l'océan s'étendant loin à l'horizon, tout comme je l'avais fait 32 ans auparavant à mon arrivée au bord du Pacifique. A New Day, un nouveau jour. C'est le premier mouvement de The Dharma at Big Sur de John Adams, composé en 2003. L'orchestre symphonique de la BBC était dirigé par le compositeur. On continue maintenant, voilà, adieu Big Sur, on va vers le sud, on longe le Pacifique, on est exactement à mi-chemin maintenant de San Francisco et Los Angeles, et surprise, des zèbres broutent. On croit rêver, mais non, le fondateur du lieu les a bien fait venir lorsqu'il construit son château en 1922. Il s'appelle Randolph Hearst. Orson Welles s'en inspire de sa vie pour le personnage de magnat des médias dans Citizen Kane. Randolph Hearst a fait construire un château ici avec un seul principe. Peu importe le prix et le temps que ça prendra. Hearst Castle, c'est presque une petite ville avec 56 chambres à coucher, 61 salles de bain, 19 salons, 51 hectares de jardin, une cuisine centrale, une bibliothèque, des piscines intérieures et extérieures, des cours de tennis, une salle de cinéma, un terrain d'aviation et donc le plus grand zoo privé du monde. Son architecte, Julia Morgan, s'est occupée de la construction entre 1919 et 1945 et pour abriter la vaste collection d'antiquités de Hearst, elle conçoit un domaine de style méditerranéen. Hearst fait venir les pierres d'Europe. C'est un lieu orgueilleux, mais alors vraiment de toute beauté, avec notamment une somptueuse piscine de Neptune, un bassin orné d'un temple dédié au dieu de la mer, une statue d'ailleurs italienne datant du XVIIe siècle est incorporée à la façade du temple, ainsi que d'authentiques colonnes romaines. Il y a aussi une délicate piscine intérieure d'inspiration romaine construite avec plus d'un million de tulles de verre de Murano. Hearst Castle va devenir une petite principauté de Monaco, où viennent les vedettes Charlie Chaplin, Cary Grant, Clark Gable, Gary Cooper, Charles Lindbergh, John Crawford, Winston Churchill, qui déjeunent dans une salle à manger inspirée du Moyen-Âge, jouent au tennis ou regardent un film. Orson Welles y pensera lorsqu'il tournera Citizen Kane. La musique du film est signée Bernard Herrmann. La musique de Bernard Herrmann pour le film Citizen Kane, inspirée de la vie de Randolph Hearst, c'était l'Orchestre National Royal d'Écosse, dirigé par Joel McNeely. On continue à longer la Pacific Coast Highway vers le sud. On fait un dernier arrêt surprenant, c'est Solvang, une ville qui nous fait croire qu'on a atterri au Danemark, où on peut dormir à l'hôtel Hamlet Inn, un village créé en 1911 par une colonie de Danois et construit dans le style national, avec des maisons à colombages, des nids de cigognes, des lampadaires au gaz et même un musée consacré au plus célèbre auteur danois Hans Christian Andersen. Et voilà, la Pacific Coast Highway, plus de 1000 km le long de l'océan Pacifique, qui ont fait alterner paysages sauvages majestueux et Amérique du luxe et des geeks. Mais Los Angeles, nous voilà, ça sera demain la dernière étape de notre voyage. Merci à Alice Escriou pour le site, au mixage et à la prise de son à Julie Garraud et à la réalisation à David Travailleur. Vous pouvez podcaster cet épisode et toute la série sur l'application Radio France et toutes les plateformes de musique en ligne et retrouver la programmation musicale sur francemusique.fr.
À réécouter sur francemusique.fr.